Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
À Gatineau, c'était les funérailles de Valérie Leblanc aujourd'hui. Cette jeune fille qui a été victime d'un meurtre sordide. Et Alison, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont rendues sur place. On voulait lui rendre un dernier hommage. Apparemment, il y avait même des gens debout dans l'église.
Oui, au moins 500 personnes, Pierre, qui ont assisté aux funérailles. Il y avait bien sûr la famille de Valérie Leblanc, des amis, des citoyens aussi qui ont été touchés. Une cérémonie sous le signe de la simplicité, à l'image donc de Valérie Leblanc.
Mercredi 31 août 2011. On est en face de la cathédrale Saint-Joseph à Gatineau. Il y a des centaines de personnes qui sont réunies sur le parterre de l'église. Il y a des voitures stationnées partout, des journalistes, des politiciens. On dirait des funérailles nationales. C'est une grosse manifestation d'amour pour Valérie Leblanc, retrouvée morte derrière le cégep de l'Outaouais.
Puis l'église était pleine tête, pleine, les deux étages pleins, là. En bas pis en haut, c'était plein. Quand j'ai vu ça, moi, ça m'a vraiment touché parce que j'ai vu comment est-ce qu'il y avait encore du monde humain puis qui care pour les autres. C'était très touchant. Ouais.
Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le cas Valérie Leblanc. Pour être capable de comprendre ce qui est arrivé à Valérie Leblanc en 2011, notre équipe a passé plus d'un an à rencontrer ses amis, des membres de sa famille, ses professeurs du cégep, bref, des gens qui l'ont connue de près ou de loin. On s'est rendu compte que tout le monde avait quelque chose à dire sur les funérailles. Pour la plupart, c'était un moment lumineux, une occasion de faire le deuil, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas que de bons souvenirs, comme Danielle Soucy, la patronne de Valérie.
C'est pas une funéraille normale. Tu sais, c'est pas, elle a pas, c'est pas, OK. Quand un jeune décède, ça fait toujours un gros trou. OK? Parce que nous autres, les parents, on n'est pas faites. Vous autres, vous n'êtes pas faites pour enterrer vos amis, puis nous, on n'est pas faites pour enterrer nos enfants. Fait que la situation est awkward juste en partant. Puis qu'en plus, elle se fait assassiner vraiment cruellement. OK? Là, on s'entend. Puis qu'en plus, On n'a pas de piste, on n'a rien. Ben, ça crée un drôle d'atmosphère. Ouais. Les funérailles, je le vois encore, la grosse église à Hall, plein de monde. Moi, j'avais rien qu'une idée dans la tête. De voir c'était qui. Qui était. Vous savez quoi. J'avais rien qu'une idée dans la tête.
À ce moment-là, j'ai arrêté d'enregistrer parce que Danielle voulait nous parler à micro fermé. Selon ce qu'on a compris, Danielle n'était pas la seule à penser que le ou les coupables faisaient partie des centaines de personnes qui étaient présentes aux funérailles. Dans le dernier épisode, Sylvain Leblanc, le père de Valérie, nous a dit qu'il n'avait pas apprécié l'attitude de l'ex-copain de sa fille durant la cérémonie.
Non, mais une affaire que j'ai pas aimée, c'est qu'à l'enterrement de la petite, il y a une petite cuisine dans le fond de... Les bancs sont là, le monde sont là pour parler, puis dans le fond à gauche, il était dans la petite cuisine, lui puis 3-4 personnes s'arriaient comme des fous, puis gros sur... Après, comme être assis à une game de poker, puis on se compte des jokes ensemble. Mm. Hey man, c'est l'enterrement de ta blonde.
Mais quand Sylvain nous a dit ça, je peux pas dire que ça nous a surpris. L'ambiance ressentie à l'église pendant les funérailles est pas mal représentative de la tension entre la famille et les amis de Valérie. C'est ce que nous a dit Olivier Girard-Joyal.
Puis lors de les funérailles de Valérie, on n'a pas été invité à rester après pour... l'espèce de comme cocktail qu'il y a après, tu sais. On était comme pas les bienvenus. Puis je pense que la raison pour laquelle c'était le cas, c'est que je pense qu'ils se doutaient ou ils craignaient qu'un de nous autres ait été le coupable.
Sa sœur jumelle Audrey a dit la même chose quand on lui a demandé si les amis et la famille de Valérie s'étaient parlé aux funérailles.
Puis ça, c'est vraiment vague. Je pense que j'ai peut-être échangé quelques mots avec la mère. C'est pas mal tout. Après ça, on est allé chez Jérôme. Ses parents, ils avaient fait un petit... Ils avaient commandé de la pizza, je pense. On avait comme vécu notre gang. Là.
Dans nos conversations avec les amis de Valérie, on sentait souvent un inconfort quand il était question des relations entre Valérie et sa famille. Et le contraire est aussi vrai. La famille de Valérie se méfiait de sa gang. Il y a eu quelques échanges concernant une vidéo hommage faite le lendemain de la mort de Valérie, dans laquelle on voit tous ses amis raconter des anecdotes et des histoires.
C'était une personne très courageuse.
Une grande dynamique, elle n'avait pas peur du ridicule.
Elle avait toujours le sourire à la face.
C'est la première à avoir des idées vraiment qu'on n'aurait jamais cru.
Je me rappelle pas de l'avoir vue sans le sourire.
C'est quelqu'un de très attachante, puis j'irais jusqu'à dire émotive.
Nous, on voulait que la vidéo soit diffusée au funérailles. Mon frère voulait ça. Mais là, finalement, ça ne s'est pas fait.
C'est Olivier Gérard-Joyal qui s'est occupé du projet. La vidéo avait été tournée dans le sous-sol de ses parents et ça avait été pour la gang une bonne façon de faire le deuil. En parlant à Val Charland, Olivier et Audrey, on sentait qu'ils étaient déçus de ne pas avoir vu la vidéo projetée à la cathédrale Saint-Joseph lors des funérailles.
Val.
Valérie.
Valium. Ce n'est pas un au revoir.
Ce n'est pas un au revoir.
C'est un à tantôt.
C'est un à tantôt.
Chaque moment passé avec toi.
C'est une vidéo qui a circulé pas mal sur les réseaux sociaux et elle a même été mentionnée dans un article de la presse. De plus en plus de journalistes commençaient à l'utiliser dans leurs reportages et Val Charland nous a expliqué que ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde dans la gang.
Les vidéos, on avait faites initialement pour la mère de Val, parce qu'on voulait montrer que Val était aimé avec ses amis puis tout ça. Puis quand on a vu que les journalistes ont commencé à prendre des extraits de notre vidéo, comme fuck you, genre sérieux, ouais. C'est notre vidéo pour la mère, puis tu l'utilises.
C'est devenu de plus en plus difficile de trouver la vidéo sur le web. Les amis de Valérie nous ont donné un lien pour qu'on puisse la regarder. Et ça nous a permis d'identifier les autres personnes qui étaient dans le cercle rapproché de Valérie. C'est la première fois qu'on voyait le visage de Jérôme Simard, l'ex-copain de Valérie. Ça nous a donné un peu d'espoir dans notre idée de le rencontrer. Olivier, Audrey et Val Charland étaient convaincus que Jérôme accepterait jamais de nous parler. Steven et moi, on a hésité longtemps avant d'entrer en contact avec lui.
T'es en train de te brosser les dents.
Ouais, j'ai fini, là.
Okay.
Finalement, on s'est essayé.
Est-ce que t'as parlé à Jérôme aujourd'hui?
Ben, j'ai parlé, je veux dire, il m'a écrit, puis j'ai réécrit, tu sais. OK. Puis, attends, je vais te dire ce qu'il m'a dit, c'est vraiment cool.
On dit souvent que malgré ses 250 000 habitants, Gatineau, c'est un gros village. Ben, Steven a trouvé la bonne personne pour approcher Jérôme Simard, une de ses amies qui s'appelle Aurélie.
Il dit... Salut Steven, comme Aurélie te l'a sûrement indiqué, je suis un peu frileux avec l'idée d'une entrevue pure et dure, mais j'ai cédé face à la proposition d'un entre-deux. Comment tu voulais organiser ça? J'écris, je suis comme, salut Jérôme, merci de prendre le temps. Je dis, je comprends bien ta réticence et j'aimerais avoir l'occasion de discuter des intentions du projet. Je peux venir te rencontrer à Montréal. J'ai l'impression qu'on va jaser. Je vais apporter le Ricardo au cas.
Penses-tu qu'il est prêt à te rencontrer ou ben, à nous rencontrer en personne?
Ben oui, en personne, oui. Mais je suis pas sûr qu'il va vouloir parler en tape. Je pense que c'est une relation qu'il va falloir bâtir.
Convaincre Jérôme n'a pas été une tâche facile. Steven lui a parlé au téléphone et ils se sont donné rendez-vous dans un café à Montréal, juste pour jaser. Steven a expliqué pourquoi on s'intéresse à l'histoire de Valérie et surtout pourquoi on voulait le rencontrer. La rencontre a duré presque 3 heures et Steven m'a appelé tout de suite après.
Il faisait-tu de quoi de reparler?
Pas vraiment. Il est pas vraiment émotif par rapport à ça. Il a l'air un peu détaché, mais il a surtout comme la mémoire floue de cette journée-là.
Y avait-tu l'air prêt à t'en parler en entrevue?
Il est comme timide un peu pour cette démarche-là, dans le sens où comme il s'est jamais ouvert à personne avant. T'sais, ses amis proches sont au courant, mais il a comme un peu bloqué ça de sa vie. Il a jamais donné d'entrevue publique ou il n'en a jamais parlé devant le public de ça.
Les mois ont passé et on a laissé le temps à Jérôme de se faire une tête là-dessus. Steven l'a rappelé et ils se sont donné rendez-vous encore, mais cette fois dans le nouvel appartement de Jérôme.
Puis cette journée-là, toi, comme ça, c'était la deuxième journée d'école ou quoi?
Ouais, il me semble que c'était sa deuxième journée.
Comment ça s'est passé, toi, cette journée-là pour toi?
Ben, le timeline, c'est que moi, ça faisait quelques jours, semaines que je me disais que ça allait pas bien notre relation puis qu'il fallait mettre fin à ça. Moi, ça allait moins bien, entre autres, les raisons que moi je donne à notre rupture, là, finalement. Puis c'est moi qui ai rompu, mais je pense que si ça avait pas été moi, ça aurait été elle, là, dans les jours qui suivaient. Parce que ça allait vraiment pas tant bien. Moi, j'y faisais plus confiance. J'avais une couple de fois parce qu'elle m'avait raconté soit elle avait vraiment une existence quand j'étais pas là, qui était hors du commun, puis totalement éclatée, fantastique. Soit c'était limite de la mythomanie. C'est beaucoup, beaucoup d'histoires.
Fait que là, tu as dit, tu sais, faut qu'on se parle.
Ouais.
Vous êtes allés ensemble dans le bois.
Ouais. Puis l'idée, c'était d'aller luncher dans le bois. Elle c'était. Ben, moi, à ce moment-là, je faisais. Puis j'en fais encore, mais je faisais beaucoup de plein air. Comme je faisais de la longboard, on allait se promener dans le bois avec des amis souvent. On faisait de l'escalade. Puis ce coin du bois-là, j'étais allé quand même une couple de fois. Un peu plus loin dans le bois, il y a une paroi d'escalade en fait qui est fermée officiellement, mais sur laquelle il y a encore des bottes.
Vous êtes dit comment on va aller luncher là.
Ouais.
Puis, est-ce que vous aviez un spot que vous alliez souvent?
Non, je pense qu'on n'était jamais allé luncher comme tel dans le bois, mais je savais que si tu suivais la trail, il y avait un endroit où est-ce que la trail faisait un. Ça doit être à peu près 500 mètres de cégep. C'est vraiment pas loin dans le bois. Tu rentres dans le bois, puis il y a un moment, la trail fait une petite courbe, puis elle va rejoindre la cyclable, puis dans la courbe, il y a une espèce de petite clairière avec des roches, puis des bios de bois. Parce que tu sais, tu peux t'asseoir facilement, puis on s'est installé là pour se jaser. Je pense que je devais avoir un sandwich, puis elle avait son lunch.
Puis comment ça, vous avez jasé? Comment ça s'est passé?
Ça n'a pas été très très long. Je suis allé, si je me rappelle à peu près de la conversation, j'y ai expliqué que je trouvais que ça se passait pas bien. Puis grosso modo, ce que je me rappelle, c'est qu'elle m'a demandé, tu t'es en train de me dire que tu me laisses là. Puis j'ai fait ouais, dans le fond. Puis elle a ramassé ses affaires, puis elle est repartie vers le cégep. Donc, je pense que j'ai fini mon sandwich, puis je suis parti. Moi, je suis parti dans l'autre sens, sur la trail.
Ça va faire 7 ans que les événements ont eu lieu. Jérôme a donc parfois de la difficulté à se souvenir de certains détails de cette journée-là.
Puis comme, mettons, les funérailles, c'était comment, ça, cette journée-là? Ça s'est passé comment?
Ça a bien été, globalement. Puis tu sais, finalement, on était une gang d'amis plus proches, puis c'est les gens, finalement, du vidéo d'Olivier. Mm-hmm.
Ça, c'était votre gang.
Ouais. C'est vraiment les amis proches, du moins de notre gang, les amis proches de Valérie. Puis, on a. Vraiment, on s'est retrouvés à aller là ensemble. Puis, t'avais vraiment les gens de la famille. Puis, c'est normal, là, qui étaient priorisés au niveau. Puis, je pense que. Puis, c'est peut-être juste une question de maturité. Mais en tant qu'amis qui sont très touchés, notre gang, on se sentait un peu, tu sais, laissés de côté dans la crowd, à pas se faire donner notre importance. En même temps, sa famille, tu sais, ça me fait autant que c'est une famille qui avait ses tensions puis ses histoires, je pense que tu sais, dans ce moment de recueillement là, c'était eux qui étaient puis c'est comme ça qu'ils ont géré. Puis tu sais, je veux dire, j'étais pas son copain, j'étais son ex.
Ouais.
D'une drôle de façon, ça fait une différence sur la façon dont c'est géré.
Jérôme l'a dit à Steven. Il sait que beaucoup de gens ont fait un lien entre la rupture et le meurtre. Steven lui a demandé si la police l'avait déjà considéré comme un suspect.
Non, j'ai jamais été un suspect. En même temps, moi, tu sais, je veux dire, mes parents étaient bien inquiets que je me fasse entourlouper finalement, parce que, ben, comme de fait, puis la croyance populaire est fondée, je veux dire. Au niveau de l'histoire globale, je suis suspect.
Ouais, oui.
Je suis suspect. Mais mes parents ne voulaient pas que je me fasse entourlouper ou que les policiers qui essaient de fermer l'enquête, qui essaient de me faire tomber dans. Puis j'avais rencontré un avocat criminaliste à Montréal qui m'avait conseillé finalement. Si jamais il te pose telle question. Il m'avait pas dit exactement si jamais il pose telle question, mais c'est si jamais ils veulent te re-rencontrer, parce que ça c'était après les avoir rencontrés deux, trois fois. Si jamais ils veulent te re-rencontrer à ce point-ci, appelle-moi, assure-toi d'avoir un avocat avec toi rendu à ce point-là. Parce que t'as fait ta déclaration générale, ils ont les informations les plus précises que tu peux leur donner. Donc à partir de ce point-là, puis tu sais, c'est ça. Donc. Mais après ça, ils m'ont pas recontacté.
Ben, tu sais, pour que la police te considère pas comme un suspect, mettons, il faut qu'il y ait.
Ben, les gens m'ont vu.
Ben, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un, une caméra, une personne.
C'est ça. Chose. C'est que les gens. Tu sais, mais. Moi, j'ai pas. Tu sais, je veux dire. Maintenant, je peux pas te fournir un alibi. Je me rappelle pas de ma déclaration du moment. Je me rappelle pas de mon horaire de la journée. Puis tu sais, c'est rétrospectivement que cette journée-là devrait être gravée dans ma tête. Sauf que c'est un événement que j'ai appris le lendemain. T'sais, généralement, c'est le 7. Tu sais, ce que tu vas te rappeler d'un événement marquant, c'est le setup à ce moment-là.
Ouais.
L'événement, pour moi, il est arrivé le lendemain matin. Mais finalement, c'est ça. Je pense que les policiers m'ont probablement enlevé de leur liste sur la base des témoignages des gens qui m'ont vu au cégep dans l'après-midi, dans les heures où est-ce que j'étais là-bas. Mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis pas capable de te faire une timeline de cette journée-là. Avec le temps qui a passé aujourd'hui, je serais absolument incapable de te faire une timeline crédible de cette journée-là. Je sais pas comment je suis retourné chez nous après. Je sais pas comment j'ai probablement pris le bus comme toutes les autres journées d'école.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu sais, le reste de la journée. C'est pas mal le même. Je sais que. Je me rappelle qu'à un moment donné, dans l'après-midi, je pense, il y a l'ami Aval qui m'a demandé si je l'avais vu. Je lui ai dit que la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans le parc.
Puis, c'était
Mélanie.
Ok.
Mélu.
Ok. Ouais.
Quand Jérôme nous a dit ça, on a eu l'impression de revenir à la case départ. Mélu. Au premier épisode, on avait déjà identifié Mélu comme étant une des dernières personnes à avoir vu Valérie vivante, si c'est pas la dernière. Et malheureusement, Mélu veut toujours pas nous parler. Audrey Girard-Joyal, l'amie de Valérie, a vu Mélu au poste de police le lendemain du meurtre.
Mais Milu s'était fait, on s'était croisé au poste de police parce que c'était une des dernières personnes qui l'aurait vue après moi. Puis c'est ça, quand j'allais au poste de police, il y avait des fatigants qui « Ah, la fille de Rosette », puis Milu était assise avec ses parents. Elle m'a dit « Je suis ici, puis je suis allée la voir ». C'était une des personnes qui avait interrogé dans les 24 heures après. Il y a eu Jérôme, Oli, moi, puis Milu était au poste de police parce que je pense qu'elle était repartie chercher dans le bois avec Val. Mm-hmm. Ça, c'est comme nébuleux, mais il me semble qu'ils se sont laissés, puis Val a dit « Je reparle à Jérôme », puis elle est partie l'accompagner. Ouais.
Milu n'est pas la seule personne à qui on a essayé de parler qui a refusé catégoriquement. Val Charland nous a parlé d'une de ses amies qui a joué un rôle important le 23 août 2011. Geneviève Cyr, une étudiante de première année au cégep, a aperçu le groupe de jeunes qui jouaient avec le cadavre.
Ils ont vu le cadavre, mais elle, son père est paramédic. Fait que, ah, si, c'est quoi un corps mort? Mm-hmm. Elle a déjà vu, ou en photo, peu importe. Fait que, mm-hmm. En fait, ça, c'est pas un vrai corps. On appelle la police.
Puis sur c'est la... pas un vrai corps.
Comme c'est pas un corps comme un fake, c'est ça. Ça, c'est un vrai corps.
Okay.
Puis, j'aime ça de me mettre en contact avec elle parce que c'est elle qui est arrivée sur les lieux avec ces personnes-là. Puis elle a fait, vous êtes des personnes ignobles, c'est un corps réel. On appelle la police.
Oh, je sais qu'elle a parlé à ces gens-là. Elle a vu
ces gens-là. Oui, elle les a vus, là.
Val Charland a tout fait pour convaincre son amie Jen de nous rencontrer malgré un trouble de stress post-traumatique lié à l'événement. Val Charland lui a quand même écrit un message, mais la réponse de Jen était négative.
Ben, tu sais, gars, je vais te laisser la réponse. Là. Pour ce qui est de témoigner, participer à ce genre de choses pour Valérie, je comprends parfaitement les intentions derrière tout ça. Mais pour moi, c'est, et je crois que ça va toujours être un non. J'ai trop souffert avec cette histoire-là et mon PTSD me donne toujours des flashbacks et des cauchemars à ce jour. Donc, pour moi-même et ma santé mentale, en parenthèse, et légalement, avec un accord pris cette journée-là avec la police, je ne peux pas.
Eh bien, moi, je dis qu'on faut qu'une entrevue avec la police, puis on voit ce que ça donne.
On peut.
Dans le prochain épisode de Synthèse, on parle à des policiers et à des journalistes d'enquête pour comprendre le travail qui a été fait par le service de police de la ville de Gatineau.
Il y a une guerre entre les corps de police. Autant la police de Gatineau, dans ce cas-là, parle. Jeu du qui pisse le plus loin, en fait, là, va essayer de garder son enquête le plus longtemps possible parce qu'elle pense qu'elle est capable de l'amener à terme. Mais la réalité, là, c'est que la SQ a des moyens que les corps de police municipaux ont pas, et quand ça tarde à être transféré des fois, tu perds des précieux jours d'enquête qui se rapprochent du crime, qui sont, c'est pas moi qui vous l'apprends, les plus importants.
Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Steven Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. La musique est de Francis Faubert. L'habillage sonore est signé Steven Boivin et Julien Morissette. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info@commercial.transistor.media.